d'aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 27 décembre 2024. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile son projet de rupture pour les prochaines années. En Guinée, l'arrestation d'un opposant pour offense au chef de la junte. La CDAO défend le Nigeria, accusé par le Niger d'un complot de déstabilisation. En RDC, des poids lourds de l'opposition ont promis des manifestations contre le projet de changement de constitution.
Ils ont lancé un appel au refus de changer de constitution ou de modifier de constitution, du pouvoir à vie et à la volonté de mobiliser notre peuple à la résistance.
Maître Hervé Diakiesse, porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, nous en dira plus dans la partie magazine. En Corée du Sud, le Premier ministre par intérim Ahn Dak-soo a été à son tour destitué ce vendredi par le Parlement. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Le Premier ministre du Sénégal veut abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall, couvrant les violences politiques qui avaient fait des dizaines de morts entre 2021 et 2024. Ousmane Sonko a décliné aujourd'hui son plan de rupture pour les 5 prochaines années. Alexandrine Ollognon.
Lors de son discours de politique générale prononcé devant les députés, Ousmane Sonko a déclaré qu'il était impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue au Sénégal depuis l'accession du pays à son indépendance. Sonko a décliné 7 axes de rupture basés sur une refonte de l'action publique et une croissance endogène, alors que le Sénégal est resté, selon lui, enfermé dans le modèle économique colonial. Il a aussi annoncé une importante réforme fiscale en élargissant l'assiette fiscale tout en abaissant graduellement les taux d'imposition moyens. À propos de la loi d'amnistie, Sonko a annoncé que son gouvernement proposerait dans les semaines à venir un projet de loi pour que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies de quelque bord qu'elles se situent sur ces violences. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, encore moins de vengeance. Il s'agit de justice, a-t-il ajouté. La loi d'amnistie à l'initiative de l'ancien président Macky Sall avait été votée avant le scrutin pour décrisper une situation devenue explosive. Elle avait permis de faire sortir de prison des centaines de personnes écrouées, dont le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko.
Un opposant guinéen a été arrêté jeudi et placé en garde à vue ce vendredi à Conakry pour offense au chef de la junte, a indiqué son avocat. Les précisions de John Lindon.
Aliou Ba, chef du mouvement démocratique libéral, se trouvait vendredi à la division des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, souligne son avocat Antoine Pépé Lama. L'opposant guinéen se rendait en Sierra Leone voisine quand il a été arrêté jeudi en compagnie de deux de ses collaborateurs. Aliou Ba est un réel prisonnier d'opinion. Son seul crime se résume en critique envers l'État face à la recrudescence des phénomènes de kidnapping et de disparitions forcées, a fait savoir son avocat. Dans des communiqués séparés, les forces vives de Guinée et l'Organisation guinéenne des droits de l'homme ont dénoncé cette arrestation. Elle est la dernière en date d'une longue série dans un contexte de restrictions sévères des libertés par la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya qui a renversé le président civil Alpha Condé en 2021. Depuis son arrivée au pouvoir, la junte guinéenne a fait arrêter ou poursuivre de nombreux opposants. D'autres ont été poussés à l'exil.
La CDAO a pris la défense du Nigeria après que le Niger a affirmé que son voisin complotait pour le déstabiliser. Le point avec Eric Manirakiza.
Lors d'une émission télévisée diffusée mercredi le jour de Noël, le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Tchiani, a accusé le Nigeria d'héberger deux ressortissants français qu'il avait expulsés pour des activités antigouvernementales et d'abriter une base française destinée à armer des groupes terroristes dans la région du lac Tchad. Selon M. Tchiani, un accord aurait été conclu en mars dernier entre l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, ISWAP, et la France, avec pour objectif de créer un bastion terroriste près de Sokoto, dans le nord du Nigeria. En réponse, la CDAO a publié un communiqué réfutant ces allégations, saluant le rôle historique du Nigeria en faveur de la paix et de la sécurité de plusieurs pays dans la région et sur le continent africain. De son côté, le ministre nigérien de l'Information, Mohamed Idriss, a également nié toute alliance avec la France ou tout autre acteur contre le Niger. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria avait déjà démenti fermement dans un communiqué le 21 décembre dernier les allégations portées par le Niger, accusant ce pays voisin de vouloir le déstabiliser.
Au Mozambique, le président élu appelle à la non-violence et à l'unité, alors qu'un climat de tension et de peur règne à Maputo, la capitale, suite aux émeutes déclenchées par la confirmation controversée de la victoire du Frelimo, parti au pouvoir lors des élections d'octobre. La ville est marquée par des barricades, pillages et pénuries de nourriture, essence et médicaments. L'opposition menée par Venancio Mondlane continue de dénoncer des fraudes électorales et accuse le gouvernement d'utiliser la crise pour étouffer la contestation politique. Plus de 2000 familles mozambicaines ont trouvé refuge au Malawi cette semaine, ont indiqué les autorités du pays voisin. Au Kenya, des défenseurs des droits humains, politiciens et avocats ont exprimé aujourd'hui de graves préoccupations après une nouvelle vague d'enlèvement de jeunes critiques du pouvoir qui fait les gros titres dans le pays depuis quelques jours. L'ancien vice-président Rigathi Gachagua, destitué en octobre après de vifs différends avec le président au sujet des manifestations, a également affirmé aujourd'hui qu'une unité secrète était derrière les disparitions. Au total, 29 des 82 personnes disparues depuis le mois de juin, recensées par la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, sont toujours introuvables.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a annoncé aujourd'hui la dissolution du Parlement et officiellement fixé les élections législatives anticipées au 23 février, une décision attendue après l'implosion de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz et le vote de confiance perdu par ce dernier. Cette campagne anticipée de 7 mois par rapport à la date initialement prévue s'inscrit dans la grave crise que traverse la première économie européenne, autrefois modèle de stabilité politique, au moment où son partenaire privilégié dans l'Union européenne, la France, est également affaibli par l'absence d'une majorité parlementaire. En Corée du Sud, le président par intérim, le premier ministre Hang Duck-soo, a été à son tour destitué par les députés aujourd'hui. Un nouvel épisode dans la crise politique qui secoue le pays depuis la tentative ratée du président déchu d'instaurer la loi martiale. Jacques Aristide.
Le vote s'est déroulé sous les protestations bruyantes des élus du parti au pouvoir, le PPP. Ces parlementaires se sont mis à chanter et à lever le poing en signe de colère. Il s'agit de la première destitution d'un chef de l'État par intérim, après celle du président titulaire dans l'histoire de la Corée du Sud. C'est au ministre des Finances, Choi Sang-mok, que revient désormais la charge de président intérimaire. Le patron du PPP veut que Han Duck-soo continue à diriger les affaires de l'État sans se plier au vote de destitution par l'opposition. Mais le Premier ministre Han a réagi en indiquant qu'il comptait respecter la décision du Parlement. Les députés l'accusaient d'avoir activement participé à l'insurrection après la tentative avortée de son prédécesseur Yoon Suk-yeol d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier. En tant que nouveau président par intérim, Choi Sang-mok a promis de tout faire pour sortir de ce chaos politique. Mettre un terme à la crise gouvernementale est maintenant la priorité absolue, a-t-il déclaré après sa nomination, ajoutant que le gouvernement consacrera tous ses efforts à surmonter cette période de turbulence.
Plus de 30 000 réfugiés syriens ont traversé la frontière turque pour entrer dans leur pays au cours des 17 derniers jours, a affirmé aujourd'hui le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya. Un précédent nombre communiqué par les autorités turques faisait état de plus de 25 000 retours à partir de la Turquie en 15 jours depuis la chute de Bachar al-Assad. Et puis les rebelles houthis au Yémen ont revendiqué des attaques aux missiles et aux drones contre Israël. Les attaques des houthis surviennent après des frappes israéliennes jeudi sur des sites contrôlés par les rebelles, dont l'aéroport de Sanaa, des bases des centrales électriques et des installations portuaires ailleurs au Yémen, selon les insurgés qui ont dénoncé un crime. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, était à l'aéroport de Sanaa au moment du bombardement et a fait savoir sur X qu'il était sain et sauf. Selon l'Organisation mondiale de la santé, M. Tedros se trouve toujours au Yémen.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
Le conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a approuvé le 9e plan quinquennal 2025-2029, doté d'un budget considérable de plus de 18 milliards de dollars. Selon Financial Afrique, cette augmentation significative de 120% par rapport au précédent plan quinquennal souligne l'engagement indéfectible de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à promouvoir le développement économique à travers l'Afrique. La Zambie et l'Arabie Saoudite ont conclu le jeudi 26 décembre 2024 un accord de restructuration de la dette, ont annoncé les autorités. L'accord a été signé à Lusaka par le ministre zambien des Finances et le directeur général du Fonds saoudien pour le développement. En défaut de paiement depuis 2020, la Zambie a entamé des démarches pour restructurer sa dette extérieure, évaluée à près de 13 milliards de dollars en 2021. Africa Airlines, compagnie aérienne régionale basée au Congo, poursuit son expansion en Afrique centrale. Le transporteur a inauguré le 24 décembre dernier une nouvelle liaison entre Brazzaville et Bangui. Des vols réguliers visant à renforcer la connectivité entre les deux pays et à stimuler les échanges économiques seront désormais opérés deux fois par semaine, les mardis et samedis, à bord d'un Boeing 737-300.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
NBA Luka Doncic souffre d'une blessure au mollet qui le tiendra éloigné des parquets pour au moins un mois.
La star slovène des Dallas Mavericks s'est blessée mercredi lors d'un match de saison régulière de NBA contre Minnesota selon la chaîne sportive ESPN. La blessure de Doncic, 25 ans, au mollet gauche sera réévaluée dans un mois, a indiqué ce média spécialisé. Le meneur slovène, qui tourne à une moyenne de 28 points, 8 rebonds et 8 passes décisives, devrait ainsi manquer au moins une quinzaine de matchs des Mavericks. Luka Doncic est sorti dès le deuxième quart-temps de la rencontre perdue mercredi à l'occasion du Christmas Day par Dallas à domicile contre les Minnesota Timberwolves, 105-99. À l'approche de la mi-saison, la franchise texane occupe la quatrième place de la Conférence Ouest, avec 19 victoires et 11 défaites.
Oklahoma City et SGA font parler la poudre contre les Pacers.
Au lendemain du festin offert par Stephen Curry et LeBron James, c'est Oklahoma City et sa star canadienne Shai Gilgeous-Alexander qui ont fait le spectacle jeudi, remportant un 9e succès d'affilée en saison régulière de NBA face aux Indiana Pacers, 120-114. Avec 45 points, le meneur canadien d'Okasi, qui a 26 ans, dispute sa 9e saison, a égalé son record de points inscrits et permis au Thunder de porter sa série actuelle de victoires à 9. Avec ce 24e succès de la saison obtenu dans l'Indiana, Okasi continue de dominer à l'Ouest avec 3 victoires d'avance et sur Houston, qui a de son côté décroché son 4e succès de rang à la Nouvelle-Orléans, 128-111.
Deux morts lors de la course à la voile en Australie.
Deux navigateurs sont morts ce vendredi lors de deux accidents distincts pendant la célèbre course à la voile Sydney Hobart en Australie. Les autres membres d'équipage ont tenté de réanimer leurs coéquipiers, mais sans succès. Des vents violents et une mer agitée étaient prévus pour cette course. Le navire favori Comanche a par ailleurs été contraint à l'abandon peu après son départ de Sydney jeudi. Sur les 104 navires engagés au départ, 17 ont dû se retirer, ont précisé les organisateurs. En 1998, 6 marins avaient été tués, 5 bateaux avaient coulé alors que 55 participants avaient dû être secourus lorsqu'un ouragan s'était abattu sur la course. Le vainqueur de l'édition de l'an dernier, Lord Connect, menait la course ce vendredi en début d'après-midi avec 18 000 nautiques d'avance sur son rival Celestial. Cette course est de près de 1200 km, relie Sydney à Hobart sur l'île de Tasmanie en passant par le détroit de Bass dans le sud-est de l'Australie. Elle se déroule depuis 1945.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila ainsi qu'une autre figure majeure de l'opposition congolaise, Moïse Katumbi, ont appelé les Congolais à résister contre la volonté de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'opérer une réforme constitutionnelle. Les deux leaders politiques, maintenant dans l'opposition, se sont rencontrés hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Pour en savoir plus, Eddy Sango a joint à Kinshasa le porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Maître Hervé Diakiesse.
Le président Joseph Kabila et le président Moïse Katumbi se sont rencontrés, en effet, en tant que compatriotes et aussi responsables politiques. Le président Joseph Kabila, ancien chef de l'État et aussi autorité morale d'une grande famille politique qu'est le FCC, qui a choisi de faire de l'opposition extra-institutionnelle. Et Moïse Katumbi est à la tête du plus grand parti de l'opposition et en plus c'était candidat à la présidence de la République à qui on avait spolié ses voix. Ils ont lancé un appel au refus de changer de constitution ou de modifier de constitution, du pouvoir à vie et à la volonté de mobiliser notre peuple à la résistance.
Le président Félix Tshisekedi promet de convoquer dès le mois de janvier prochain une commission qui réunira toutes les parties, les experts de toutes les parties, pour voir s'il faut réformer la constitution qui est en place ou carrément en créer une autre. Allez-vous participer à ces travaux ou pas et pourquoi pas?
Toute personne sensée qui aime le Congo et qui aime les Congolais savent que l'initiative hasardeuse du président Tshisekedi va davantage créer la division entre les populations et va consolider davantage la fracture au niveau du Congo. Nous avons des sérieux problèmes. Ce n'est pas le moment où nous allons commencer à encenser quelqu'un qui veut juste établir un pouvoir à vie parce qu'il se sent gêné par les dispositions constitutionnelles qui ont été voulues justement pour consolider la démocratie et l'expression de la volonté du peuple. Cet appel est un appel patriotique justement à sauvegarder les acquis républicains et à éviter les dérives dictatoriales dans lesquelles malheureusement, nous avons tous aujourd'hui basculé.
Moïse Katumbi et l'autre opposant majeur, Martin Fayulu, s'étaient aussi rencontrés il y a quelques temps à Genval, en Europe, pour la même discussion. Vont-ils marcher ensemble et désormais?
La rencontre de Genval entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu procède la même logique que la rencontre qui a eu lieu avec le président Kabila. C'est d'élargir autant que possible le champ républicain, les champs des acteurs politiques qui visent aujourd'hui à sauver les acquis de la République, qui communient avec la misère du peuple congolais et qui sent qu'il est nécessaire, par-delà nos divergences politiques, qui existeront toujours, et on est dans une démocratie, où nous avons des valeurs qui sont fondamentales et communes, notamment ce pourquoi les peuples congolais s'est sacrifié, les refus d'une dictature, les refus d'un pouvoir à vie, les refus d'un régime qui s'assit sur les droits fondamentaux du peuple congolais, qui garantit l'impunité et le pillage de nos ressources.
Maître Hervé Diakiesse, porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Un naufrage tragique en mer au large des côtes marocaines a fait près de 70 disparus, dont 25 maliens, selon un communiqué du gouvernement malien rendu public jeudi soir. Cette catastrophe a particulièrement touché la région de Kaï, dans l'ouest du Mali, un point de départ majeur pour de nombreux migrants maliens en quête d'une vie meilleure en Espagne. Parmi les victimes, on dénombre plus d'une dizaine de jeunes originaires de la commune de Kanamakunu. Makan Diallo, chef du village adjoint, exprime son désarroi au micro de Georges Attino.
Dans notre commune, 14 jeunes sont morts à notre niveau ici. Les gens étaient tellement tristes, on coulait beaucoup de larmes. Il y avait des morts ici avant ça, mais donc c'est la première fois que beaucoup de jeunes sont morts à la fois. C'est la première fois à vrai dire. Parce que chez nous ici, il n'y a pas d'emploi, quoi. Il n'y a pas d'emploi. Les jeunes sont instruits, ils ont leur diplôme, mais ils n'ont pas d'emploi. La raison pour laquelle ils sont motivés d'aller en Europe, quoi. Voilà.
Mais Kayi est connu pour être le premier point de départ au Mali vers l'immigration clandestine. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps pour cette ville de diversifier ses sources de revenus? On sait que la diaspora compte beaucoup, mais est-ce qu'il n'est pas temps que celles et ceux qui sont déjà en Europe, ailleurs, puissent financer des projets, des petits projets, pour que celles et ceux qui sont déjà dans les villages puissent y rester et travailler décemment?
Bien sûr que oui, s'il y a des solidarités, si l'immigration est l'arrêté actuellement, celui qui sont en Europe déjà, ils sont doivent faire certaines cotisations pour financer les jeunes ici qui sont de leur diplôme ou ils sont pas d'emploi. Si on met en place des cotisations pour les financer, on peut rester ici, sans problème. Mais il n'y a pas de solidarité, quoi, à vrai dire. Parce que si avec une même génération, si lui allait en Europe, il peut construire un bon bâtiment dans 2 ans, 3 ans. Tu es là, tu n'es pas même un moto. Obligatoirement, il sera motivé pour aller en Europe de façon irrégulière. À vrai dire, actuellement, moi, je suis un cadre pour sensibiliser les gens, même aujourd'hui, c'est la même sensibiliser les gens. À réseaux sociaux, à radio extra, pour leur dire qu'on doit rester ici pour chercher certains projets financièrement pour travailler dans notre village ici. Parce qu'il y a de l'eau ici, il y a terre, on peut vraiment exploiter bien même pour bien vivre aussi, à vrai dire.
Est-ce que les jeunes qui sont au village après ces décès, ils sont choqués ou bien ils se disent que, bon, après ces morts, ils vont quand même partir?
Bien sûr que même aujourd'hui, il y a des 5 jeunes qui sont retournés à provenance de Mauritanie. À nos villages ici, Kalamakoumou, je voyais 5-6 jeunes sont faits retour. Ils sont effets au Mauritanie pour traverser la mer. Mais ensuite de ces génocides, ils sont faits le retour. Ils ont commencé de faire le retour, vraiment. Ils ont commencé. Même celui ici, il y a 5 sont arrivés ici, dans notre village.
Makan Diallo, chef du village adjoint de Kanamakounou au Mali. Dans le cadre de notre rétrospective sur l'année 2024, nous vous proposons un éclairage sur les événements politiques qui ont marqué le continent africain. Eric Manirakiza, adjoint à Dakar au Sénégal, analyse politique. Ibrahim Makan du bureau ouest-africain de l'ONG au Siwa.
L'Afrique de l'Ouest, encore une fois, a été vraiment le théâtre de beaucoup d'événements qui continuent de marquer l'année 2024 en Afrique de l'Ouest. D'abord, il y a les événements politiques au Sénégal qui ont conduit à l'avènement de Pastef et de Ousmane Sonko au pouvoir. Il a fallu l'intervention du Conseil constitutionnel sénégalais qui a, par la même occasion, redoré son blason auprès de la population pour que la situation au Sénégal politique ne se détériore pas. Il y a la crise entre 3 pays de la CEDEAO qui ont créé l'Alliance des États du Sahel et qui ont décidé de quitter la CEDEAO, plongeant l'organisation régionale dans une sorte de crise dont elle n'est pas encore sortie. Et il y a également les problèmes liés à la situation politique difficile en Guinée qui montrent encore que les régimes militaires en Afrique de l'Ouest ont encore de beaux jours devant eux. En Afrique de l'Est, on a la crise du Soudan, un pays qui est en train de méthodiquement, lentement, mais sûrement de se disloquer complètement. Et cela sous le regard impuissant ou autre, on ne sait même pas quel qualificatif utiliser, de tous les leaders de l'Afrique. Les soubresauts au Kenya sont quand même aussi importants parce que c'est la jeunesse kenyane qui s'oppose à une manière de gérer le pays par le président de la République. Et il y a naturellement les élections avec leur lot de crises, leur lot de problèmes. La dernière élection en date est celle du Mozambique qui a vu la victoire du parti au pouvoir, mais une victoire qui est contestée. Vous avez les élections en Namibie qui étaient aussi des élections au résultat contesté. On a même le sentiment maintenant que les régimes politiques qui sont issus des mouvements de libération sont en train de perdre pied sur le continent.
Avec la montée des mouvements citoyens et des revendications démocratiques dans plusieurs pays africains, quelles évolutions ou ruptures politiques peut-on anticiper en 2025? Quels seront les principaux défis?
Le mouvement citoyen n'ont pas, je veux dire, la même force dans toutes les régions d'Afrique et dans tous les pays. Par exemple, on a vu qu'au Kenya, en Afrique de l'Est, les mouvements citoyens ont pratiquement imposé leur vue au président de la République. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal, d'une certaine façon, c'est le mouvement citoyen, finalement, qui a forcé le président Macky Sall a quitté le pouvoir. Et dans beaucoup d'autres pays, la Guinée, Conakry, le Togo, le Ghana, les mouvements citoyens commencent vraiment à prendre de l'envergure. Et cela amène, en tout cas, amène à réfléchir sur l'efficacité du système de démocratie représentative. Parce que la démocratie représentative reposait sur l'idée que les citoyens élisent des représentants qui vont et qui agissent en leur nom. Mais
Ibrahim Khan de l'ONG OSIWA. Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a fait de l'immigration un enjeu majeur de sa campagne présidentielle de 2024. Sa future administration prévoit une application plus stricte des lois. Aline Barros, correspondante de la VOA en matière d'immigration, explique ce que ces politiques pourraient signifier. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
Pendant sa campagne présidentielle, le républicain Donald Trump, alors candidat, a promis des mesures frontalières plus rigoureuses, notamment un plus grand nombre de détentions et d'expulsions des sans-papiers.
Nous allons nous retrouver avec la plus grande expulsion de l'histoire américaine. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix car aucun pays ne peut le supporter.
Les plans possibles de M. Trump incluent l'agrandissement des centres de détention et un retour au programme nommé Remain in Mexico, rester au Mexique, qui exige que les migrants demeurent au Mexique en attendant de l'examen de leur dossier par les autorités d'immigration des États-Unis. Tom Homan, choisi pour devenir à son tsar des frontières, affirme que la mise en œuvre plus rigide de la loi vise à améliorer la sécurité publique et nationale.
À la suite de la plus grande crise d'immigration illégale que nous avons jamais vue dans ce pays, il doit y avoir une opération d'expulsion massive.
Certains experts en matière d'immigration sont d'avis que les expulsions massives affaibliront la sécurité publique en décourageant les immigrants de rapporter les crimes. David Beer est le directeur des études sur l'immigration au Cato Institute.
Comparé aux personnes nées aux États-Unis, les immigrants sont plus susceptibles de signaler les crimes à la police. Mais des études ont montré à plusieurs reprises que lorsque la répression indiscriminée augmente dans un endroit donné, cela réduit le taux déjà élevé de signalement des crimes ou le taux plus élevé de signalement des crimes parmi les immigrants.
Les administrations, tant démocrates que républicaines, ont généralement laissé en liberté les migrants n'ayant pas de casier judiciaire en attendant les procédures d'immigration. Cette situation pourrait changer avec une détention obligatoire qu'envisagerait la future administration. David Leopold, avocat spécialisé dans l'immigration.
Si j'étais un résident permanent légal, titulaire d'une carte verte, je serais sûr maintenant d'avoir en ma possession ma carte verte.
Des responsables de la future administration Trump déclare que ces mesures dissuaderont les criminels. Mais David Beer de Cato Institute dit que ce n'était pas le cas la dernière fois.
Les expulsions massives vont déprioriser les délits graves. À son arrivée au pouvoir, la première administration Trump a annulé toutes les exigences pour se concentrer sur les délinquants ayant commis des délits graves, les criminels en premier, et en conséquence, sans surprise, ICE, l'agence de contrôle de l'immigration américaine, a doublé le nombre d'arrestations de non-criminels.
Pendant ce temps, ajoute David Beer, le nombre de criminels arrêtés alors qu'ils tentaient de traverser la frontière a triplé. Donald Trump indique qu'il agira sur l'immigration dès le premier jour de sa présidence, le 20 janvier.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïba. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.